La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par Impact Centre. Dans chaque émission, je vous emmène à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le milieu agricole et rural plus durable. À partir du printemps 2023, Impact 37 devient partenaire du podcast. Désormais, j'enregistrerai les émissions avec Julie, chargée de communication de l'association. Cette émission est consacrée à la biodiversité domestique. Nous avons rencontré François, qui est président de l'association URGC, et Valérie, qui est vigneronne en Touraine, qui utilise des cépages rares. Donc nous sommes aujourd'hui avec François Bonhomme, qui est coprésident de l'URGC, et qui va nous présenter l'association. Donc François, est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire URGC et quand l'association a été créée et dans quel but ?
Bonjour à toutes et à tous. L'URGC a été créée en 2001 et ça veut dire l'Union pour les ressources génétiques du Centre Val-de-Loire. Alors à l'origine, ça a été créé par Jacques Aubourg et c'était l'URGB, l'Union pour les ressources génétiques du Berry. Parce qu'il reste beaucoup de choses en biodiversité domestique dans le Berry. Et la volonté de la région Centre, ça a été de le mettre sur toute notre région, parce qu'il y avait d'autres travaux à faire en dehors du Berry et de la Sologne. Alors pour expliquer vite fait, la biodiversité domestique, c'est ce qui est issu du monde naturel, de la biodiversité naturelle, et qui a été domestiquée par les êtres humains au fil des millénaires et des centaines de dernières années. Et c'est ce qui donne une particularité à chaque territoire. Et à chaque terroir, alors pour des exemples communs, on va parler par exemple en race avicole locale, il y a la géline de Touraine par exemple. Et puis pour les cépages, par exemple, il y a un cépage berrichon qui s'appelle le genouillé. Donc c'est une vraie diversité, ou le gros lot pour la Touraine, c'est une vraie diversité par rapport à des races ou variétés plus récentes internationales.
Race avicole, ça veut dire volaille ?
Exactement, oui. Et on a la chance sur la région d'en avoir sept différentes.
Et donc, tu parlais du fait que l'URGC était une union. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs associations ?
Tout à fait, ouais. L'union, c'est ça. Ça représente en fait et valorise cette biodiversité. Donc, ça peut être les races avicoles, donc les poules, mais aussi les moutons. Il y a le mouloton solognier, l'âne grand noir du Berry, il y a l'abeille noire de Sologne. C'est plein de différentes associations. Ou même des particuliers qui auraient décidé de défendre une race ou une variété et qui vont rentrer dans cette union. Et le but donc de l'URGC, on est quatre coprésidents et trois salariés. Et on défend toute cette biodiversité. Là, tout récemment, on vient de créer depuis l'année dernière une association sur les cépages rares qui s'appelle Agir pour les cépages rares en Centre-Val-de-Loire. Il y en avait une avant, mais qui était plus réduite sur le Berry et Sologne. Et là, on interviendra du coup sur un territoire régional. Et donc voilà, il y a une multiplicité de différentes associations. Et c'est une des rares en France qui existe sur ce modèle-là. Et on a souvent séparé entre les races carnées, on va dire, et puis les variétés. Et nous, on regroupe l'ensemble du vivant.
Est-ce que vous pouvez nous parler des activités tout au long de l'année de l'association ?
Alors, c'est multiple. Alors, encore une fois, nos salariés, elles, aident, supportent, valorisent. Et puis, on a un gros travail de recherche aussi. Hein. Ça part vraiment du début. Ça peut être des ressources historiques jusqu'à la valorisation. Et là, nous, on ne commercialise pas, mais à aider à commercialiser les races ou variétés. Donc, c'est l'ensemble, en fait, quasiment de toute la chaîne. Et ça, c'est un gros travail que l'on doit effectuer, notamment pour retrouver, là dernièrement, on a retrouvé des variétés locales de pommes, de poires, de tomates. Et si on ne le faisait pas, le risque, c'est qu'elles disparaîtraient à tout jamais, qu'on n'ait plus accès à cette diversité.
Et en quoi c'est important de protéger cette diversité ?
Alors, pour différentes raisons, ça peut être un côté hédoniste, pour le goût, pour la couleur. Avoir des pommes de plein de couleurs ou des tomates de plein de couleurs, c'est joli, mais c'est aussi des goûts différents. Et puis, il y a évidemment une question de résilience par rapport au réchauffement climatique, puisque les variétés et races sont issues, donc, comme je l'ai expliqué, de la biodiversité naturelle, mais elles ont été adaptées au fil des centaines ou milliers d'années. Donc, chaque terroir, de façon empirique, les agriculteurs ou agricultrices de l'époque se sont rendus compte que certaines étaient mieux adaptées à leur sol, à leur climat. Et puis, on peut imaginer que ces races ou variétés, elles ont déjà connu aussi des mini-périodes glaciaires ou des périodes caniculaires. Donc, dans leur gène, elles ont conservé cette résilience. Et on pense que c'est important par rapport au changement climatique. Et puis, c'est aussi intéressant parce que souvent, elles sont plus rustiques et on a moins besoin de les traiter ou de leur donner pour les races des antibiotiques ou médicaments.
Et quelle variété, donc tu nous parles de variété et de race, est-ce qu'on en trouve beaucoup dans la région? Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de races ou variétés qu'on trouve ici?
Moi, j'ai parlé tout à l'heure de la Géline de Touraine, qui est une race assez connue de poules, mais finalement pas évident à trouver parce qu'il y a très peu de producteurs qui en ont. On a un travail justement pour refaire une filière et qu'elle soit pérenne, parce que pendant longtemps ça fonctionnait, mais ça fonctionnait plutôt, on va dire, grâce aux subventions. Et il faut trouver des gens motivés qui soient au-delà des subventions. Par exemple, le bel exemple qu'on a sur les races avicoles, c'est la poule noire du Berry. Donc c'est une race assez similaire à la Géline de Touraine. Et là, on a des producteurs volontaires, donc ça c'est chouette parce que dans le Berry ça fonctionne bien, et puis en Sologne également. Sur le miel, par exemple, on a un producteur qui est à fond engagé, mais pas, et il emmène des gens avec lui sur l'abeille noire de Sologne. Les races d'abeilles locales ont quasiment disparu au profit de races plus productives anglo-saxonnes. Les gens ne sont pas spécialement au courant de ça, mais toute cette biodiversité que nous on nomme trésor vivant, elle est intéressante pour plein de sujets. Alors on a aussi, donc je parlais des cépages tout à l'heure, le gros lot, le genouillé, il y a le fier gris aussi, qui est une variété de sauvignon qu'on appelle aussi sauvignon rose. L'âne grand noir du Berry, il en existe de multiples, le mouton sologno, le mouton berrichon. Je pourrais donner, il y a la tomate charbonnière, dans les légumes, il y a la laitue frisée d'olivier, le chou poncarlier, enfin il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Et est-ce que vous avez une idée de chiffres en tête du nombre de cépages, variétés qui existent en région centre?
Alors ça, j'ai envie de dire, ça évolue tous les mois quasiment, puisque comme je disais l'année dernière, sur des graines légumières, on en a trouvé 4 nouvelles. Dans les cépages, moi je suis plus concentré là-dessus et j'estime qu'on pourrait travailler 60 autres cépages qui ne sont pas actuellement réinscrits, autorisés pour faire du vin. Et puis plus on cherchera, plus on en trouvera peut-être. Justement, de la nouvelle asso qu'on a créée aura une mission d'identification pour retrouver des anciens cépages. Alors ça veut dire aussi qu'il faut faire le lien entre des sources historiques et ce qu'on peut retrouver maintenant. Mais donner un chiffre précis, c'est plusieurs centaines, pas loin de milliers d'indexations de races ou variétés. Ouais.
Et comment on peut les valoriser en cuisine? J'ai l'impression que l'URGC propose des recettes.
Oui, on propose des recettes et on travaille avec des chefs. Alors il y en a un qui est très célèbre, qui s'appelle Christophe E, à côté de Blois. Et on a plusieurs chefs comme ça, et notamment dans leur potager, leur jardinier qui expérimente pour nous, qui nous donne des infos sur les variétés que l'on a. On leur donne, on leur met à disposition des graines et ça nous permet, nous, d'avoir un retour. Et les chefs sont super intéressés parce que c'est du goût différent. Déjà, ça leur permet de se démarquer de la concurrence, évidemment. Et puis, parfois, des associations émergent. Ça peut être aussi avec les cépages oubliés. On a dans l'assiette, ça va donner des couleurs et des textures, des goûts et des associations qui sont très différentes. Donc ça intéresse les chefs, effectivement, et de plus en plus de chefs sont intéressés. Et dernièrement, c'est la bonne nouvelle, parce que c'était plus compliqué sur les variétés légumières, on a de plus en plus de maraîchers qui s'intéressent, et notamment pour l'intérêt par rapport au réchauffement climatique.
Oui, j'allais demander si c'était accessible à toutes et tous, parce que donc, c'est super que des chefs soient ambassadeurs de ces variétés, mais est-ce que quand on a simplement envie de goûter à ces variétés anciennes, on peut en trouver facilement chez les producteurs et productrices ?
Ben non, c'est le gros point noir entre guillemets. C'est la tête de wagon en fait qui nous manque. Pour le moment, à quelques exceptions près, comme la sucrine du Berry, cette courge qu'on peut trouver maintenant en grande surface, mais qui a un autre souci, comme c'est pas protégé, souvent en fait c'est des courges qui sont plus très ressemblantes, qui sont génétiquement plus pures entre guillemets par rapport à l'origine de la courge la sucrine du Berry. Non, souvent c'est un peu difficile d'en trouver. Alors on a quelques semenciers indépendants avec qui on travaille. Moi j'en propose par exemple dans mon magasin en vente quelques graines, mais c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Alors plus on fait connaître notre association, plus les maraîchers prendront conscience que c'est intéressant et plus on pourra en trouver sur les étals de marché. On travaille aussi avec quelques lycées ou collèges pour créer des recettes et puis les faire travailler, parce que depuis le début, on pense de toute façon que c'est avec les générations futures, si elles prennent conscience de tous ces trésors, et ben on pourra pérenniser ces races ou variétés. Mais ça demande, on est sur des systèmes assez longs, hein, c'est malheureusement pas aussi rapide.
Et du coup, la notion de patrimoine vivant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Eh ben, ça va être lié un peu à la marque que l'on avait posée, Trésor Vivant, parce qu'on estime en fait depuis longtemps que c'est un véritable trésor, non seulement pour les producteurs qui s'engagent à maintenir et à valoriser ces races ou variétés, c'est un trésor économique, c'est un trésor écologique, parce qu'on peut imaginer que si on multiplie des centaines et des centaines de races ou variétés différentes, nos paysages agricoles changeront et seront beaucoup moins uniformisés. Donc ça aura aussi une incidence sur la biodiversité, en règle générale, la biodiversité naturelle. Donc c'est pour ça qu'on parle de trésor vivant. Et que cette notion de patrimoine, bah, elle est forcément importante parce qu'elle est liée au passé, mais c'est quelque chose qui est à léguer pour les générations futures.
Et une petite question pour finir, comment vous vous y prenez pour retrouver ces variétés anciennes ?
Bah, y a différentes choses. C'est assez complexe pour certaines, pour d'autres c'est plus simple. Je vais prendre pour ma part, je reviendrai sur d'autres choses, mais pour les cépages par exemple, je travaille plus spécifiquement là-dessus. Donc là, on a des sources historiques. Alors ça peut être officiel avec des cadastres en 1958 ou un peu plus loin après la Révolution, 1808-1804. Et puis après, parfois, on a des empélographes, c'est des gens qui travaillaient, qui essayaient de mettre en place un système de classification des cépages autour du 19e siècle. Et puis avant, on a différentes sources historiques qui parlent de différents noms. Et on essaye de regrouper l'ensemble de ces ressources, de ces sources historiques, pour voir de quoi on parle et ce qui pouvait exister. Donc ça, c'est une façon de retrouver des choses. Et sur les cépages, j'ai envie de dire, c'est un peu plus simple que sur des variétés légumières, où souvent, c'est une transmission orale. Alors, si on faisait des dépouillements d'archives, on arriverait sans doute à trouver des choses. Mais là où on trouve le plus de choses, c'est dans l'oralité, notamment. On a missionné plusieurs personnes pour aller faire le tour des EHPAD de la région. Avant que en Afrique, on a souvent tendance à dire qu'un ancien qui disparaît, c'est un livre qui disparaît. Et c'est la même chose chez nous. Il y a beaucoup de mémoires qui disparaissent. Et si personne ne fait ce travail, bah, il sera malheureusement abandonné à tout jamais. Il y aurait sans doute aussi des gens qui ont écrit des choses dans des petits bouquins personnels, des petits livres. Mais malheureusement, lors des transmissions aux générations après, ben on sait bien que beaucoup de choses sont jetées, donc on perd des mémoires écrites, mais parce que les gens n'ont pas conscience que ce qu'ont écrit leurs parents ou leurs grands-parents, c'est des sources inestimables sur ce patrimoine vivant. Donc il y a différentes façons, ça peut être dans les archives ou oralement. En tout cas, plus on en parle, et puis parfois on fait des relais dans la presse, hein, ou même à la télé, et souvent on a des retours tout de suite de gens qui nous disent « Ah ben moi j'ai tel bouquin, ah ben moi mon grand-père avait ça », et ça nous permet d'avoir au début une notion de cette nouvelle ressource, et puis après on va faire des recherches un peu plus concentrée sur le terroir, sur le territoire, avoir d'autres éléments auprès de la mairie, de la région, de voisinage, pour être sûr que l'on ne dise pas de bêtises, tout simplement.
Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation.
Merci à vous. Au revoir.
Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'URGC sur trésorvivantducentre.com. Alors maintenant, nous allons voir Valérie Forgue, qui est vigneronne en Touraine, à Mareuil-sur-Cher, et qui travaille des cépages rares et locaux. Donc bonjour Valérie, est-ce que tu peux nous présenter ton activité ?
Oui, bonjour Agnès. Le domaine est un petit domaine, on a 12 hectares, on est rive gauche, vallée du Cher, à côté de Saint-Aignan. Mon activité, c'est vigneronne en bio, on travaille bio. Vigneronne, ça veut dire aller de la vigne jusqu'à la bouteille de fond en comble. Je me suis installée en famille il y a 26 ans sur un domaine qui était déjà existant, qui était en conventionnel, beaucoup plus important d'ailleurs. Tous les cépages existants aujourd'hui sur ce domaine étaient déjà présents, mais quand je suis arrivée, et je ne connaissais absolument rien au vin, je suis arrivée dans un contexte d'installation familiale, on m'a dit, tu parles Sauvignon et Gamay. Le reste, ce n'est pas important. Et évidemment, à l'époque, j'ai fait comme on m'a dit de faire. Et j'ai mis des années, mais vraiment des années, pour commencer à rencontrer des gens qui m'ont appris qu'on pouvait sortir de ces passages, de ces avenues, en fait, qui sont complètement toutes faites et qui n'ont plus forcément beaucoup de charme à mes yeux. Et j'ai mis des années en rencontrant les belles personnes pour comprendre que non, c'est par celles dont il ne fallait pas parler. Justement, c'était peut-être les parcelles les plus importantes en tout cas pour le bien fondé et pour la justification de notre métier, parce que finalement, on est des passeurs. Je considère que moi, je ne suis que de passage ici. Je ne suis pas de troisième génération. Je suis arrivée un petit peu menée par le gré des vents. Je me suis posée sur cette vallée. J'ai posé un petit peu mes racines sur cette vallée. Mais je ne suis que de passage. Ces terres-là, ça ne m'appartient pas. On n'est pas propriétaire de la terre. Donc finalement, tu te rends compte que là, tu te trouves face à des parcelles qui étaient là bien avant. On a des parcelles qui sont préphylloxériques, qui sont chargées d'une histoire qui nous dépasse de loin. Et finalement, moi, mon travail par rapport à ça, c'est juste de soigner le temps que je pourrai. Et puis ensuite, on essaiera de passer tout ça.
Alors Valérie, tu nous as parlé de cépage. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un cépage ?
Le cépage, c'est la variété du raisin. On parle là de raisins de cuve, contrairement aux raisins de table. Les raisins de cuve sont utilisés pour faire du vin et les différents vins sont faits avec différents types de raisins, donc du blanc, du rouge, mais il y a évidemment tellement de cépages qui existent en France et même ailleurs. Donc le cépage, c'est vraiment la variété du raisin. Hein. L'appellation Touraine est surtout connue pour le Sauvignon en vin blanc, le Gamay en vin rouge. Mais en fait, la Touraine, c'est comme toutes les régions de France. Hein. C'était des petites structures. Dans la vallée du Cher, comme ailleurs, tu avais des petites structures familiales. Tu avais les rangs de fraises, tu avais des rangs d'asperges, tu avais de la framboise, hein, la sologne, la fraise, la framboise, tout ça, ça a du sens. Tu avais de la chèvre. Si tu étais riche, tu avais éventuellement une ou deux vaches. Et puis, il y avait les rangs de vignes. Et ces rangs de vignes ont été petit à petit éradiqués parce que c'est logique aussi que l'agriculture, ça s'est spécialisé. Donc, si tu commences à produire de l'oignon, tu te spécialises dans l'oignon ou dans la fraise. Tu es obligé de te spécialiser. Produire du vin, tu es obligé de te spécialiser. Donc, la notion de polyculture élevage, elle a disparu. Et ces petits rangs ont disparu aussi. Et ceux qui ont été remplacés par de la vigne, de ces rangs, c'est devenu des parcelles. On parle en ce moment de réintroduire des haies, hein, de ramener de la biodiversité, mais la vigne, c'est quand même une monoculture. Et je pense qu'on doit être très vigilant à garder quand même le plus possible de biodiversité.
Et d'ailleurs, en parlant de biodiversité, comme tu nous disais qu'on trouvait en majorité dans la vallée du Cher du Sauvignon et du Gamay, est-ce que tu peux nous dire quelles variétés et quels cépages du coup tu as chez toi ?
Alors ici, nous avons 8 cépages du Sauvignon, mais Sauvignon blanc et Sauvignon rose, qu'on appelle le fier gris. Alors le fier gris, j'en ai pas beaucoup, j'en ai dans une parcelle, mais on essaye vraiment de le sauvegarder, parce qu'en plus c'est un cépage très délicat, donc on essaye vraiment d'avoir une taille particulière. Donc Sauvignon blanc, fier gris, hors-bois, chenin. Alors l'hors-bois, c'est un cépage qui a pratiquement disparu. Heureusement, on commence à le remettre un petit peu en valeur. L'hors-bois, c'était le cépage traditionnel autrefois dans les villages. Et on disait hors-bois, on disait vert-bois, verdé. Aujourd'hui, on dit hors-bois, on l'appelle aussi le menu pinot. C'est vraiment la notion, genre de cépage, on trouve quelques rangs. Ici, nous avons une parcelle d'hors-bois et de chenin qui ont été coplantés. Alors coplantés, ça veut vraiment dire qu'ils ont été plantés ensemble. D'ailleurs, la cuvée que j'en fais, enfin l'une des cuvées qu'on en fait, ça s'appelle les entremêlés. Entremêlés parce que ces cépages sont entremêlés. Et ils ont été entremêlés tout simplement parce qu'il y avait du bon sens, parce qu'autrefois, on n'est clairement pas dans des vins type AOC, on n'est vraiment pas dans des vins qui sont dans un cadre d'appellation Touraine pour répondre à un cahier des charges. On est là sur une histoire qui a du sens. Et l'hors-bois est un cépage qui a beaucoup disparu parce qu'il n'était pas extraordinaire non plus. Il n'avait pas la flagrance et la qualité du Sauvignon. C'était un cépage modeste. Mais par contre, les anciens s'étaient rendus compte qu'en mettant du chenin, on pouvait obtenir quelque chose de sympathique. Relativement modeste quand même, parce que ici on est un petit peu donc dans la vallée du Cher, là où on est, hein, du côté de Saint-Aignan, on est un petit peu en limite septentrionale pour le chenin. Le chenin va un petit peu manquer de maturité, mais comme l'hors-bois est un cépage très doux, selon les années, selon les millésimes, on peut obtenir quelque chose de, je dirais, correct. Quand je suis arrivée, on m'avait dit ça t'en parle pas, parce que ça c'est pas intéressant. Et le vigneron qui était en place en conventionnel, avec cette parcelle, il faisait de la bulle. Il faisait une base, il l'envoyait, faire double fermentation, c'était bon. Faire de la bulle, c'est pas tout à fait l'esprit, parce qu'on essaie de mener nos vins jusqu'au bout, et de vraiment de créer à partir des matières qu'on a, sans vouloir trop les transformer. Mais il y a aussi la question du changement climatique. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu de telles évolutions au niveau des températures, on a eu des vendanges qui étaient tellement chaudes qu'on est arrivé sur des maturités que je ne pense pas que cette parcelle ait connu vraiment régulièrement autrefois et qui nous a permis de faire vraiment des cuvées, je pense, relativement top, quoi.
Alors, dans ta communication, on voit que tu parles des cépages rares. Pourquoi tu as eu cette volonté en fait, de conserver ces parcelles et pourquoi cet engagement pour les cépages rares ?
Parce que c'est quelque part la seule chose qui fait du sens pour nous. On est de passage, mais on doit quand même... Enfin voilà, c'est un petit peu une mission. Ça a du sens. Et de toute façon, autant... Voilà, c'est du bon sens. Je ne sais même pas quoi dire, c'est tellement évident. Écoute, on nous parle de biodiversité partout, et dans la viticulture, on nous fait planter des clones. Donc, au bout d'un moment, c'est bon. On va essayer de retourner un petit peu à terre. On ne peut pas continuer dans cette voie-là. Et la viticulture est devenue tellement segmentée, contrôlée. Je ne fais pas du vin pour répondre aux attentes d'un cahier des charges. Parce que pour faire ça, ce n'est pas compliqué. Tu achètes la levure, tu achètes l'activateur, tu achètes le désadificateur. Enfin, tu fais de la technologie. Mais ça, c'est possible, c'est fait. Mais c'est pas, voilà, ce n'est pas le sens que je donne à ma vie. Par contre, quand on a nous-mêmes planté, et les parcelles qu'on a plantées, on les soigne évidemment. Mais honnêtement, quand tu es dans une parcelle qui a un tel passé, tu le sens. On y passe des heures, hein, à la taille. On y passe des heures. Donc, tu le sens. Tu sens que tu es dans un autre monde. Et c'est là où tu sais que, voilà, ta mission, c'est de les soigner, de les transmettre.
Est-ce que, donc, pour toi, on peut parler de patrimoine végétal ?
Ça va plus loin que le patrimoine végétal. C'est pas seulement une histoire de conserver, et même si c'est important, hein, mais pour moi, ça va beaucoup plus loin. C'est la mémoire. C'est la mémoire du sol, c'est la mémoire du lieu, ce sont des témoins qui sont importants. On n'est pas là sur de la possession de vignes qu'on plante et qu'on arrache parce qu'elles ont été taillées pendant 20 ou 30 ans à baguette. La taille à baguette, c'est comme de la production rapide. Tu vas demander à ta vigne de produire, donc il faut qu'elle soit fructifère, donc tu la mets à baguette. Là, je pense, mais bon, j'ai d'autres, j'ai des co-centenaires aussi. J'ai du Pinot de Nice aussi, qui, bon, lui n'est pas très vieux, mais c'est également un cépage qui s'est complètement raréfié dans la région. Hein. Mes co-centenaires, tu vois, les rangs sont courbes, ils ne sont pas droits. Et il n'y en a pas deux la même largeur. Donc pour travailler le sol, ce n'est pas très facile, parce qu'aujourd'hui, on travaille le sol avec un tracteur. Hein. Mais ça avait du sens, parce que dans ce rang-là, le cheval passait avec le tombereau. Et si ce n'était pas droit, c'est parce qu'il accompagnait le sens du sol. Enfin, il y avait tellement de bon sens. Il accompagnait vraiment le sol. Donc ça, c'était bien.
Est-ce que c'est plus compliqué de s'occuper de cépages rares ? Est-ce que ça demande une façon de conduire la culture différente ?
Alors, si tu veux bien faire les choses, je dirais oui. En tout cas, ici, c'est le choix qu'on a fait. On les conduit de façon différente. Déjà, au niveau de la taille, c'était... Alors, je reparle de mes vieux hors-bois, mais c'est la même chose pour mes vieux cos. J'ai décidé de ne plus les tailler à baguette, justement pour ne pas trop leur demander. Moi, je considère que ce sont mes vieilles dames, hein, donc je leur dois le respect. Et on ne va pas se leurrer. Franchement, elles te le rendent. C'est impressionnant. Hein, mais la vigne, c'est vraiment impressionnant le retour que tu peux avoir. Alors, indépendamment, évidemment, s'il y a la grêle, ça sera difficile, mais je suis vraiment impressionnée. On a repris avec Louis, donc mon fils qui m'accompagne, on a repris des parcelles, on a changé leur taille, on a mis vraiment une intention complètement différente. En 3 ans de temps, le comportement de la vigne est complètement différent. Donc, je crois que c'est hyper important. Ces parcelles-là, nous sommes en train de les passer petit à petit en une taille qu'on appelle gobelet palissé, qui fait que plutôt que de passer d'une baguette qui sera fructifère, on passe progressivement, si le pied nous le permet, et toujours dans le respect des flux de sève pour ne jamais la contrarier. Donc même si ce n'est pas comme dans les livres, l'important c'est le flux du pied, c'est de le ramener éventuellement à 2 demi-baguettes, et puis progressivement c'est de l'amener à 3, 4, voire 5 possibilités qui vont être beaucoup plus courtes. L'avantage, c'est qu'elle produira moins de bois, elle va mieux répartir sa charge, donc il y aura une meilleure ventilation. Pour le chenin, c'est assez important parce que le chenin, c'est fragile, ça a tendance à pourrir assez vite selon les années humides, donc on essaie de mieux répartir.
Est-ce qu'il y a un intérêt gustatif aussi à ces variétés que tu cultives, ces cépages ?
Ben déjà de changer. Biodiversité, variété, gastronomie française, le bon sens, parce que je crois vraiment que les cépages qui ont été introduits autrefois, il y a eu beaucoup, beaucoup de flux, c'est clair, énormément de flux à travers la France, mais ils avaient une raison d'être, ces cépages. Et Je crois qu'il y avait une raison d'être qui était très liée au bon sens. Je reviens à des choses en disant le bon sens, mais c'était très important.
Alors, il y a une association qui a été créée en lien avec l'URGC, donc ça s'appelle Agir pour les cépages rares en Centre-Val de Loire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Valérie ?
Eh bien, j'étais ravie d'apprendre la création de cette association. Parce que, effectivement, c'est comme tout, on peut essayer de faire les choses très très bien, mais je crois que pouvoir parler de choses qui me semblent très importantes, parce que la biodiversité, le patrimoine, enfin, c'est des choses qui sont importantes. Et ça fait un moment qu'il existe des banques, hein, des banques de gènes, enfin, des réservoirs, et c'est hyper important. Mais il faut aussi qu'on sache pourquoi. J'étais déjà au courant de l'existence de l'URGC, et je trouve que c'est tellement important de préserver les anciennes espèces, mais animales, végétales. Et quand j'ai appris, il n'y a pas longtemps, que Agir existait, je me suis dit, ça c'est pour nous, enfin, c'est nous. Et on doit absolument faire partie de ce réseau pour pouvoir communiquer et expliquer pourquoi, alors ici, présentement, la Touraine, ce n'est pas que du Sauvignon et du Gamay. Loin de là. Donc Agir, c'est très très chouette. Nous, Louis et moi, donc on a rejoint Agir cette année. On est tout neuf là-dedans. Je les ai rejoints parce que c'est vraiment une belle démarche, mais aussi pour dire on a des envies, on a des projets, et puis tout seul, on n'est pas grand-chose. Du coup, c'est aussi pour dire on aura besoin de conseils, on aura besoin d'aide. Par exemple, là, l'un des projets qu'on est en train de mûrir, c'est replanter. Replanter quoi ? Replanter quelque chose qui a du sens pour nous et qui a du sens au niveau de l'histoire de ce site. Or, par exemple, cette parcelle d'Orbois et de Chenat coplantée, elle est là, elle a son sens. C'était des us vraiment d'autrefois. Cette parcelle, on s'est rendu compte à la forme des pieds qu'on a justement redécouvert à travers le labour, puisqu'en passant au bio, tu relabours, on s'est rendu compte que cette parcelle a certainement été plantée avant 1890. Ce que nous aimerions, c'est replanter quelque chose de similaire, et voire même pousser jusqu'à reprendre ce patrimoine génétique. Or, on a pas mal de boulot avec 12 hectares en bio, on est pas mal sollicité, donc on va vraiment essayer de travailler avec de l'aide, avec des professionnels et avec Agir, si on peut avoir du savoir-faire pour sélectionner les pieds, les mettre en jauge, essayer d'avoir quelque chose qui nous tienne la route et essayer de replanter, même si c'est une petite surface. Alors c'est peut-être un pari un peu élevé, un autre niveau, mais peut-être avec Agir, on pourrait y arriver.
Et aujourd'hui, pour finir, on a de plus en plus de vignerons et vigneronnes qui s'intéressent aux cépages rares et on se demandait si c'était une mode, selon toi, ou pas.
Je ne sais pas si c'est la mode, mais je pense qu'on est de plus en plus d'agriculteurs ou de paysans à se demander pourquoi on fait ce métier et comment on fait ce métier. Et tu vois, t'as dans les artisans boulangers aussi, pourquoi on fait du pain avec ça, alors que... Donc, je pense pas que ça soit une mode. Je pense que c'est un peu une nécessité, quoi, de donner du sens à ce qu'on fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui... je ne sais pas si ça va se développer, mais c'est vraiment un filet, un rue, hein, une rivière qui doit continuer à être approvisionnée.
Quel avenir on peut souhaiter aux cépages rares ?
Qu'ils soient moins rares.
C'était La main à la pâte, l'émission mensuelle du réseau Impact Centre.